Chapitre 2. 11 novembre. Te souviens-tu du carrefour de Si Mohammed el-Sherif? Nous y avons passé ce que j'appelle une matinée arabe. Te souviens-tu aussi du marchand d'habits, sorte de fripier commissaire-priseur, qui vendait aux enchères tout un assortiment de choses d'occasion et remplissait la rue de son étalage? Il portait à lui seul la dépouille de 20 femmes, des burnouses, des vestes de brocart et des tapis. Ses épaules et ses bras étaient chargés de sarouels, de damas arabes mages, de corsets plaqués de métal, de ceintures passementées d'or et de mouchoirs de satin. Une profusion de pendants d'oreilles, d'anneaux de jambes, de bracelets étincelaient à ses doigts maigres, recourbés comme des crochets. Ses mains pleines de bijoux ressemblaient à des écrins, et perdu sous cette montagne de hardes, n'ayant de libre que le visage, il arriva, la bouche grande ouverte, criant avec véhémence le prix du premier objet mis à l'encan. Il allait et venait, montant et descendant la rue entre deux haies d'acheteurs, ne s'arrêtant guère et n'adjugeant que de loin en loin. Le carrefour occupe à peu près le centre de l'ancienne ville, à peu de distance de la Casbah. C'est ici le dernier refuge de la vie arabe, le cœur même du vieux Alger. Je ne connais pas de lieu de conversation plus retiré, ni plus frais, ni mieux disposé. Un côté du carrefour est abattu, celui qui regarde le midi, de sorte qu'on a tout près de soi, pour égayer l'ombre, une assez vaste clairière, remplie de soleil, et pour horizon la vue de la mer. Le charme de la vie arabe se compose invariablement de ces deux contrastes, un nid sombre entouré de lumière et un endroit clos d'où la vue peut s'étendre, un séjour étroit avec le plaisir de respirer l'air du large et de regarder loin. Et pour rendre ce séjour plus habitable et pour qu'on puisse au besoin s'y passer du reste du monde, il y a là une mosquée, des barbiers, des cafés, les trois choses les plus nécessaires à un peuple amateur de nouvelles, ayant du temps à perdre et des veaux. On y passe, on y vient, on s'y arrête. Beaucoup de gens n'en sortent jamais, ni le jour ni la nuit, ceux qui n'ont pas d'autre chambre à coucher que ce dortoir public, et pas d'autre lit que la banquette des échoppes ou le dur pavé de la rue. Enfin, j'y rencontre une bonne partie des désœuvrés de la ville. C'est peut-être à leur exemple que je m'y complais. Tu sais où nous prenions notre café? C'était près de l'extrémité de la rue, à côté d'une boutique tenue par un Syrien. Au sommet de la rue, car elle est en pente, une école. À l'angle du carrefour, un grainetier. À droite, à gauche, un peu partout, des bancs garnis de nattes, où des gens fumaient, buvaient, jouaient aux dames. Précisément en face de nous, la porte basse de la mosquée de Mohammed el-Sherif et la fontaine aux ablutions. Au milieu de tout cela, un certain murmure de foule en mouvement qui n'était ni du bruit ni du silence. Le seul bruit véritable et continu qu'on entendit de seconde en seconde, c'était la voix du marchand crieur public qui répétait son éternelle arithmétique « Tleta duro, arba duro, kamsa duro » 3 d'euros, 4 d'euros, 5 d'euros. Les choses n'ont pas changé, et tu pourras d'autant plus aisément te reconnaître au milieu du petit monde où je te ramène. Le maître d'école est encore là. Elle y demeurera tant que vivra le maître, et il y sera sans doute après lui. Pourquoi non? Si l'on raisonne à l'arabe, il n'y a pas de motif en effet pour que ce qui a cessé d'être, puisque la stabilité des habitudes n'a pour limite que la fin même des choses, la ruine et la destruction par le temps. Pour nous, vivre, c'est nous modifier. Pour les Arabes, exister, c'est durer. N'y eut-il entre les deux peuples que cette différence en serait assez pour les empêcher de se comprendre? Depuis que tu l'as vu, oh, le maître d'école a vieilli de 2 ans. Quant aux enfants, les plus âgés sont partis, d'autres plus jeunes les ont remplacés. Voilà tout le changement. La naturelle évolution de l'âge et des années, rien de plus. Les écoliers continuent d'être placés sur trois rangs, le premier assis par terre, les deux autres étagés contre le mur, sur des banquettes légères, superposées sans plus de façon que les rayons d'un magasin. Par la disposition du lieu, c'est une boutique. Et pour le bruit et pour la gaieté de ses habitants, on dirait une volière. Le magistère, toujours au centre de la classe, administre, instruit, surveille. Il met de 3 à 5 années scolaires à enseigner 3 choses. Le Coran, un peu d'écriture et la discipline. Des yeux, il suit les versets du livre, la main posée sur une longue gaule, flexible comme un fouet, qui lui permet, sans quitter la place, de maintenir l'ordre aux 4 coins de la classe. Le café, je parle de celui qui fut le nôtre et qui est resté le mien, a comme autrefois pour Kawelji, ce bel homme pâle et sérieux comme un juge, sous ses voiles blancs et dans ses habits de drap noir. Tout le jour, il est assis près de l'entrée, fumant lui-même autant que pas un de ses clients, le coude appuyé sur le coffre vert, percé en forme de tirelire, qui reçoit sou par sou la recette du jour. Le service est fait par 2 jeunes enfants. L'un est un petit garçon de 7 ou 8 ans, fort maigre, chétif et grimaçant, car il n'y voit que d'un œil. Quand il n'est pas en fonction, c'est-à-dire occupé à porter les tasses et à présenter la pince à feu, on le trouve paisiblement assis au pied de son patron, sur un escabeau trop haut pour sa taille, et qui l'oblige à ramener ses jambes à la manière des singes. Il s'appelle Abdelkader, oh nom, Dieu grandiose et difficile à porter comme celui de César, qui semble une ironie infligée à cette nature souffreteuse d'où ne sortira jamais un homme. L'autre est le type élégant et mou des enfants mours. Le long sarrau bleu, qui est sa livrée de travail, l'habille avec des plis tombants comme une robe, et dans notre monde, où les sexes sont mieux définis, il pourrait passer pour une jolie fille. Tel est le centre de mes habitudes, et je dirais volontiers mon cercle. J'y suis connu, et j'y connais à peu près tous les visages. On me réserve, à titre d'habitué, ma place sur la banquette où l'on sait que je viendrai m'asseoir, et dans cette compagnie fort mêlée de gens de toute classe et de tout état, je prends à la fois des leçons de langue et de savoir-vivre. Quant aux amis algériens dont j'ai parlé, et qui pour la plupart sont des connaissances de Carrefour, je désire que tu saches ce que la destinée a fait de quelques-uns d'entre eux pendant mon absence. Il en est qui n'existe plus, je le crains, et jusqu'à plus amples informations, mon vieil ami le brodeur est du nombre des amis disparus. Celui-ci, le plus vieux par l'âge et le plus ancien par la date, s'appelait, en raison de son origine tunisienne, Sibrahim El Tounsi. C'était un moro de bonne souche, brodeur de son état, qui vivait en patriarche, moins les enfants, dans une petite échoppe isolée. Notre rencontre, qui date, hélas, d'une époque éloignée de plusieurs années, a pris déjà pour moi le charme des souvenirs d'un autre âge. Voilà pourquoi je t'en parle avec un double regret, aujourd'hui probablement que ce brave homme est mort. C'était le soir même de mon débarquement en pleine nuit. Je m'étais égaré dans ce haut quartier, encore bien moins éclairé qu'il ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire absolument obscur, excepté pendant les nuits de lune. Tout était clos, muet et éteint. Il n'y avait pour me guider dans la rue déserte qu'une petite lueur venant d'une échoppe encore ouverte, et où veillait seul, brodant avec des fils d'or un fond de bourse arabe, un vieillard blême aux mains blanches, la tête enveloppée de mousseline et rendue plus vénérable encore par la longueur et la blancheur de sa barbe. Une lampe éclairait son travail de nuit, une très petite fleur d'un blanc pur, ayant la forme d'un lys, trempait dans un vase à long goulot posé devant lui, pour égayer la veillée de ce solitaire. Il entendit mon pas, me salua, en m'indiquant par un geste poli que je pouvais m'asseoir, m'offrit sa pipe et se remit au travail avec la sérénité d'un esprit en paix avec les hommes comme avec sa conscience. Il était 11 heures. La ville dormait et j'entendais dans le fond du port la mer se soulever par un mouvement calme et régulier comparable à la respiration d'une poitrine humaine. Je trouvais ce tableau si simple et si complet, d'une mélancolie si mâle et d'une harmonie si parfaite, que ce souvenir me parut être de ceux qu'on n'oublie pas. Quand je me levai pour le saluer, le brodeur prit sa fleur, en essuya la tige et me l'offrit. Cette fleur, que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais revue nulle part depuis, s'appelle d'un nom que j'hésite à transcrire tant je suis peu certain de l'exactitude et de l'orthographe. J'ai pu comprendre qu'il l'avait nommé Miscromi. Tel qu'il est, imaginaire ou réel, ce nom me plut, et je n'ai même pas songé à vérifier depuis s'il figure dans la nomenclature arabe. Aujourd'hui, la boutique de Sibrahim est occupée par un tourneur qui fabrique des bouquins de pipe en ivoire à la place où j'avais vu le Miscromi. En revanche, si Hadj Abdallah est vivant, bien vivant, toujours dans son pittoresque carrefour, au fond de sa même boutique, approvisionné comme un bazar. Un peu maigri, peut-être, ce qui fait que la peau de ses joues devient trop large, mais aimable, courtois, mis avec le soin de l'homme bien né, plein de bonhomie comme un homme heureux et toujours pilant son poivre dans son éclat de bombe anglaise. Ce morceau de bombe historique, conservé depuis le bombardement de Lord Exmouth, rappelle une date mémorable dans la vie de ce vieillard malicieux, type accompli de la petite bourgeoisie algérienne. Quant à Naaman, il fume encore un peu plus de hashish que jamais. Grâce à ce régime meurtrier, il devient d'autant plus contemplatif qu'il existe moins. Sa pâleur est effrayante, et sa maigreur ne saurait surprendre quand on sait qu'il ne se nourrit plus que de fumée. Je pourrais bien le voir s'éteindre, ou s'il traîne jusqu'à mon départ, je lui dirai alors avec certitude adieu pour l'éternité. Il passera doucement de ce monde dans l'autre, au milieu d'un rêve, qu'aucune agonie, j'espère, ne viendra briser. Il n'a plus de la vie que le sommeil, et quand il dort et s'il dort, ce n'est pas probable. Déjà, il appartient à la mort par l'immuable repos de l'esprit et par la légèreté d'une âme dont les lieux terrestres sont aux trois quarts détachés. Ce sage aura donc résolu le problème de mourir sans cesser de vivre, ou plutôt de continuer de vivre sans mourir. Il m'a reconnu, peut-être m'a-t-il pris pour un habitué de ses rêves, car il m'a souri sans surprise d'un sourire familier, et comme s'il m'avait vu la veille. Il m'a cependant demandé d'où je venais. Je lui ai répondu « De France. Tu aimes donc les voyages ?»« Beaucoup. Et moi aussi. Vivre, c'est quelque chose pour apprendre, » ajouta-t-il. « Mais voyager, c'est mieux. » Toujours étendu sur la même banquette, au fond du même café où je l'avais laissé, il fumait encore la même petite pipe à tuyaux, mince, enjolivée d'un fourreau d'argent. Toute sa barbe est tombée. Son visage est celui d'un enfant mourant. Certains fumeurs évaluent la distance qu'ils ont à parcourir d'après la durée d'un cigare. On peut calculer dès aujourd'hui à combien de pipes Naaman est du cimetière Sidwan Belkader, où je l'attends. 15 novembre. Voici ce qui m'est arrivé hier pendant ma visite à Sidi Abdallah. Je note entre parenthèses cet incident de peu de valeur du reste et qui sort du cadre habituel de mes idées, de mes récits. Il s'agit d'une rencontre de femmes arabes Et l'aventure est d'autant plus simple qu'elle se compose uniquement d'une impression musicale. Sid Abdallah me montrait ses papiers de famille. Il les avait tirés d'un petit coffre colorié à serrure de cuir qui contenait une montre ancienne et quelques bijoux de prix. C'étaient des feuilles de parchemin couvertes de la plus belle écriture, rehaussées de larges sceaux de cire et d'arabesques bleus et or. Notre ami m'apprenait ses origines, qui le font descendre d'une famille de marabouts. Il m'avait entretenu déjà de ses titres de noblesse, mais il m'en donnait pour la première fois la preuve officielle. Voulait-il par là relever son importance et mieux mériter mon estime? Prétendait-il s'assurer une défense qui lui était si bien garantie d'ailleurs par son âge, parce que je savais de sa personne et par la dignité parfaite de ses manières, témoignage à mon avis de beaucoup supérieur au certificat de ses parchemins? Il m'en coûtait de croire à un calcul de vanité bourgeoise dans un esprit qui jusque-là m'avait paru exempt de petitesse. Toutefois, rien n'est indifférent dans la conduite des Arabes, et une confidence, quelle qu'elle soit, devient, quand on connaît leurs habitudes, un fait inusité sur lequel il y a toujours sujet de réfléchir. On venait d'annoncer la prière d'une heure après-midi sur la galerie de la mosquée voisine. Les femmes descendaient des hauts quartiers pour se rendre au bain. Il en passait un grand nombre, accompagnés de négresses portant sur leur tête le paquet volumineux des vêtements de rechange. Une femme seule, sans domestique et sans enfant, s'arrêta brusquement devant la boutique et vint s'y accouder. Son salut fut dit dans la formule du selam, d'une voix très douce, un peu voilée à cause du masque de mousseline qui couvrait son visage. Abdallah la vit sans la regarder, entendit son salut, y répondit par un selam bourru, continua de feuilleter ses parchemins et ne leva pas la tête. « Ouachenta, comment te portes-tu ? » reprit la voix sur un ton plus ferme, mais toujours un peu roucoulant. « Bien, répondit l'Abdallah d'un ton brusque, comme il aurait dit, allez passe ton chemin. » Cependant, une ou deux interrogations rapides lui firent enfin suspendre sa lecture. Il étendit sa main vers le coffre, y rangea lentement les précieux feuillets, puis il leva vers la femme un regard direct. Une imperceptible rougeur parut sur son visage éteint, et pour la première fois, je vis s'animer ses yeux toujours remplis d'ombre. La conversation s'engagea d'une façon très vive, quoique le plus souvent à demi-voix. Il m'était impossible d'en suivre le sens, les mots se croisaient. Je distinguais seulement le nom souvent répété d'Amar, et sous les gestes d'Abdallah semblait indiquer un refus. Tantôt il prenait sa barbe à deux mains et secouait la tête avec défiance, tantôt il allongeait sous son manteau le revers de la main droite et la relevait, par ce geste emphatique dont les Arabes accompagnent leur « la la » non. La femme, au contraire, attaquait sans se décourager, accumulant les prières, adjurant, pressant, menaçant, le tout avec une volubilité de phrase, une souplesse d'accent qui eussent rendu cette harangue si passionnée, irrésistible pour tout autre que le vieil Abdallah. Ce que j'admirais le plus dans cette escrime très curieuse, de la grâce avec le sang-froid, du pathétique avec la ruse, c'était le charme de la voix si nette, si aérée, acérée et si constamment musicale de cette femme suppliante. Quoi qu'elle dit, elle adoucissait les gutturales les plus rudes, et qu'elle voulût ou non, ses emportements les plus vifs s'enveloppaient de mélodie. Même en éclatant, même en s'élevant aux intonations de la colère, son gosier parfait ne rencontrait pas une note fausse. J'écoutais, comme on écoute un virtuose, d'abord étonné, puis ravi, et ne me lassant pas d'entendre ce rare instrument. Quelle était donc cette voix d'oiseau ? Quels étaient l'âge et la condition de cette femme ? À moins d'un miracle de la nature, il y avait déjà de l'art et beaucoup d'art dans son langage. J'estimais donc qu'elle avait passé 20 ans. De sa personne entièrement masquée de la tête aux pieds, je n'entrevis rien. Elle était tout enveloppée de blanc et ne laissait paraître que l'extrémité d'un poignet délicat, tatoué de marques bleues et orné d'un double bracelet d'or. La main, fine et blême, indiquait une femme oisive et soigneuse d'elle-même. L'entretien finit sans résultat. La mauresque choisit à l'étalage un sachet de zbed et une paire de pantoufles brodées dont elle prit la mesure en les approchant de son pied, mit le tout dans son haïk sans en demander le prix, puis ajustant ses voiles, elle salua Sid Abdallah d'un signe de tête. Sans trop y penser, je m'inclinai et dis bonjour en arabe. « Au revoir, » me dit-elle avec le plus pur accent français. À ce moment, je pus apercevoir ses yeux qu'elle dirigea de mon côté. Ce qu'ils exprimaient, je l'ignore, mais je sentis que le regard en était des plus vifs, car je le vis partir et m'arriver comme un trait. « Tu connais cette femme ? » demandai-je à Sid Abdallah quand elle nous eut quittés. Il avait repris son calme. Posément, il me répondit « Non. Sais-tu si elle habite Alger ? » ?»« Je sais pas. » « Et que te demandait-elle ?» La question était trop directe. Le vieillard hésita, puis comme il arrive fréquemment en pareil cas, il me répondit par un proverbe « Une tête sans ruse, une citrouille vaut mieux. » En même temps, il se leva, prit ses chaussures, et me quitta pour aller suivant sa coutume faire sa prière à la mosquée. Je connais assez Abdallah, ou du moins je crois le connaître assez, pour savoir que toute allusion à cet incident aurait à l'avenir le double inconvénient de le désobliger et de rester sans réponse. Je jugeai donc que le mieux était de me taire absolument, et je me le promis. Il me resta à consigner dans mon journal que pour la première fois peut-être de ma vie, j'ai entendu une admirable voix de femme, chose assez rare en tout pays. 16 novembre. Je suis retourné chez Abdallah aujourd'hui. Je m'y trouvais un peu avant 1 heure, toujours avec le plus ferme propos de demeurer discret, quoi qu'il arrivât. Et cependant, n'était-ce pas déjà comme un aveu de curiosité que de mettre dans cette visite du lendemain l'exactitude apparente d'un rendez-vous. Nous causions depuis 5 minutes à peine, quand une femme, suivie d'une négresse en haïk rouge, ce qui n'est pas de mode à Alger, apparut au sommet de la rue. Je la vis entrer dans l'ombre de la voûte et s'y arrêter un moment pour ajuster son voile, de sorte qu'au lieu de la suivre, sa servante la précéda. Son costume était irréprochable de blancheur, mais je fus surpris de ne lui voir ni pantalon de ville, ni bas. 2 lourds anneaux d'or emprisonnaient ses chevilles un peu maigres, et son pied nu se dessinait dans des souliers de maroquin noir à haut quartier. Elle passa, frappant à chaque pas ses 2 anneaux de jambes l'un contre l'autre, comme pour relever sa démarche en la rendant sonore, sans faire un geste, la tête haute et roidie par les plis de sa guimpe, les mains cachées sous ses habits blancs. Seulement je m'aperçus que ses yeux égyptiens s'allongeaient pour me regarder de côté, et le mouvement de la mousseline appliquée sur ses joues comme un moule me fit comprendre qu'elle riait. C'était bien ma mauresque d'hier. J'en fus prévenu par je ne sais quel vague avertissement, plus significatif encore que son regard oblique et son sourire. Dois-je avouer que mon premier élan fut de la suivre ? Mais il n'y parut pas, car pour rien au monde je n'aurais voulu me trahir devant mon vieil ami par une imprudence capable de me déconsidérer à tout jamais. Elle tourna l'angle de la rue. J'entendis pendant un moment le bruit de ses anneaux de métal, et l'entretien commencé reprit son cours avec le plus grand naturel. Cependant, je fis la remarque que Sidi Abdallah ne me quitta pas pour aller à la prière, et que par extraordinaire, il parut s'oublier dans des bavardages. J'éprouve pour cet homme simple, excellent, mais évidemment très perspicace, une estime aujourd'hui mêlée de quelque embarras. Aussi, pour éviter une troisième rencontre qui pourrait nous compromettre tous les deux, mon hôte et moi, dès demain, je changerai mes heures de visite. Abdallah ne m'a jamais parlé ni de sa maison, ni de son ménage, ni de ce petit monde ordinairement nombreux et compliqué, car les alliances s'y font de bonheur et sont fécondes, qui constituent la famille arabe. Par lui, je ne sais que ce qui concerne exactement sa vie publique, je veux dire sa naissance, la qualité de ses ancêtres, un ou deux voyages hors de la régence, puis sa carrière de marchand, et tout cela peut se raconter en quelques mots. À son retour de la Mecque, car il est hadji, pèlerin, il s'établit dans cette même boutique qu'il habite et que tu connais. C'était vers 1814, il avait alors 20 ans. Il ne dit point s'il s'était marié, mais on doit le croire, car 20 ans c'est déjà bien tard pour un jeune homme de race, surtout quand ce jeune homme a vu la Mecque. Il était d'abord grenetier et pas autre chose. Depuis, son commerce s'est agrandi, et s'il consacre encore un petit coin de son magasin au trafic des graines, c'est probablement en souvenir de ses années de jeunesse. Tu sais ce qu'un mot aisé de bonne souche et de principes honnêtes entend par faire le commerce. C'est tout simplement avoir sur la voie publique, le seul rendez-vous des hommes pendant le jour, un endroit dont il soit propriétaire et qu'il puisse habiter sans désœuvrement. Il y reçoit des visites. Sans descendre de son divan, il participe au mouvement de la rue, apprend les nouvelles qu'on lui apporte, se tient au courant des choses du quartier et, si l'on pouvait employer un mot dénué de sens quand on l'applique à la société arabe, je dirais qu'il continue de vivre dans un monde sans sortir de chez lui. Quant au négoce, c'est une occupation accessoire. Les clients sont des gens qui l'obligent en leur fournissant les objets dont ils ont besoin. Il n'y a jamais avec lui de prix à débattre. Combien ? Tant. Prenez ou laissez. La seule chose qui puisse être désagréable au marchand, c'est d'être occupé quelques minutes de trop d'une affaire dont il n'a souci. Il n'y comptait pas. Pourquoi regretterait-il un argent qui, venant par hasard, s'en va par hasard ? Le véritable sens d'un commerce ainsi compris, c'est d'occuper des loisirs dont on ne saurait que faire. « Écoute, me disait Abdallah un jour qu'il m'expliquait toute la moralité de la vie marchande en Orient, l'oisiveté engendre le besoin du Kiev et les mauvaises mœurs. N'est-ce pas comme cela dans ton pays ? Allez au café, convient point des hommes de race, qu'encore moins aux vieillards. À peine est-ce une habitude excusable chez un jeune homme. Les cafés sont comme les hôtelleries, des lieux faits pour les voyageurs. Hormis cela, qui est aisé de reconnaître chaque homme qu'on y voit peut être pris pour un vagabond, pour un mendiant. Toute coutume est mauvaise, qui peut ainsi compromettre un honnête homme et donner à penser de lui des choses qui ne sont pas. Le travail des mains est encore le préférable, car il rend à la fois l'esprit calme et diligent, mais j'appartiens à une famille où on a toujours mieux manié un chapelet qu'une aiguille. Il y a du bon sens dans ces doctrines, surtout quand soi-même on les met strictement en pratique. Enfin, Sidi Abdallah ne fume pas, ne prend pas de café et ne porte jamais que des vêtements de drap ou de soie de la simplicité la plus sévère. À tous ces renseignements sur lui-même que j'ai recueillis dans nos entretiens et que j'ai beaucoup abrégés, j'ajouterai ce que je sais par d'autres. Sidi Abdallah a de l'aisance, mais pas de fortune. Dans sa jeunesse, il eut trois femmes, mais avec l'âge, il réduisit son luxe. Sa dernière femme, aujourd'hui unique, est jeune. Elle demeure à peu de distance, dans une maison que je connais mais qui ne m'a jamais montrée, bien entendu, et où probablement je n'entrerai jamais. J'oubliais de te dire que l'autre jour, j'ai vu dans sa boutique un charmant enfant de 12 ans qu'il m'a présenté comme son fils. L'enfant m'a pris la main avec une bonne grâce exquise, puis a porté la sienne à ses lèvres et m'a souri. Je crus qu'il allait me parler français, mais à ma grande surprise, je sus qu'on ne lui avait pas fait apprendre le premier mot de notre langue. J'étais resté plus de 2 heures avec Abdallah après le passage de la Mauresque. Lorsque je pris congé de lui, mon vieil ami me regarda d'une façon particulière et me retint la main avec une familiarité qui ne lui était pas habituelle. Puis il me dit, en appuyant sur chaque mot, « Sidi, je te parle en homme qui sait bien des choses. Prends garde à la Kabyle. » Voici mon ami qui m'embarrasse plus que tout le reste. Je ne parle pas du danger que j'aurais pu courir en me conduisant en étourdi. Danger qui existe, puisque Abdallah croit devoir m'en avertir. Je parle du sens vrai de cette phrase, qui se prête à plusieurs interprétations. Cette femme est-elle kabyle, ou bien est-ce un terme injurieux, choisi pour la qualifier ? Abdallah, en méthodiste fervent et pétri d'intolérance, déteste et méprise tout ce qui est kabyle et juif. Il emploie ces noms comme autant de blasphèmes. Gbail et Yudi, Gbail ben Kail, c'est-à-dire Kabyle, fils de Kabyle, voilà les seuls termes violents qu'il se soit permis devant moi. Mais il y met un accent d'incroyable aversion, et cela équivaut tout à fait à la formule de chien, fils de chien. Donc, si c'est là ce qu'il entend par Kabyle, je suis à comment tenir sur la qualité de la femme. Dans le cas contraire, je ne saurais lui faire un crime d'être né dans la montagne. Et cela m'explique, en l'excusant, comment elle oublie de mettre des bas quand elle va au bain. Décembre. Toujours du beau temps, on ne croirait jamais que l'année s'achève. Moi qui vis en plein air, me levant avec le jour, ne rentrant qu'à la nuit. Moi qui assiste minute par minute au déclin de cette saison riante. C'est à peine si je m'aperçois qu'un jour succède à l'autre. Aussi j'ignore les dates et je ne cherche point à recouvrer encore le sentiment de la durée que j'ai perdue grâce à des illusions trop rares. L'impression du moment répète avec une telle exactitude les souvenirs de la veille que je ne les distingue plus. C'est un long bien-être, inconnu de ceux qui vivent livrés aux oscillations de nos climats variables. La nuit, le suspense s'en interrompt, et j'oublie que mes sensations se renouvellent en les voyant chaque matin renaître toujours pareilles et toujours précisément aussi vives. Ici comme ailleurs, l'état du ciel règle d'une manière infaillible celui de mon esprit. L'un et l'autre, depuis un mois, sont, si je puis dire, au beau fixe. Voici ma vie en 2 mots. Je produis peu. Je ne suis pas certain d'apprendre quelque chose. Je regarde et j'écoute. Je me livre corps et âme à la merci de cette nature extérieure que j'aime, qui toujours a disposé de moi et qui me récompense aujourd'hui par un grand calme des troubles, comme de moi seul, qu'elle m'a fait subir. J'essaie les cordes les plus sensibles et les plus fatiguées de mon cerveau pour savoir si rien n'y est brisé et si le clavier en est toujours d'accord. Je suis heureux de l'entendre raisonner juste. J'en conclus que ma jeunesse n'est pas finie et que je puis encore donner quelques semaines de grâce au plaisir indéterminé de me sentir vivre. Peu de gens s'accommoderaient d'un semblable régime et je ne proposerai jamais mes promenades champêtres, pour exemple, aux voyageurs de profession. À bon sens, la vie que je mène n'en a pas moins de côtés assez sérieux. Peut-être seras-tu de mon avis. Quel autre choisir au surplus sans être inconséquent? Pourquoi donc s'agiter autant lorsque tout repose? Pourquoi se précipiter à plaisir dans les nouveautés du lendemain, tandis que la vie universelle coule à plein bord, si paisiblement et d'un cours presque insensible, dans le lit régulier des habitudes? Il est d'usage, mon ami, de mal parler des habitudes, sans doute parce qu'on part d'une idée fausse pour les juger. Pour moi, je n'ai jamais compris qu'on mit son amour-propre à s'en garantir, ou bien ses efforts à s'en débarrasser, ni qu'on se crut moins libre pour avoir une méthode, ni qu'on donna le nom d'esclavage à ce qui est une loi divine, ni enfin qu'on s'imagina être beaucoup plus maître de son chemin parce qu'on n'a pas laissé derrière soi le point de repère. On s'abuse d'abord, et l'on se calomnie. On s'abuse parce que sans habitude, un jour ne tiendrait plus à l'autre, et les souvenirs n'auraient plus d'attache, pas plus qu'un chapelet qui n'a pas de fil. Et on se calomnie, car heureusement, un homme est impossible à supposer sans habitude. Celui qui dit n'en a pas à avoir est tout simplement un esprit à mémoire courte, qui oublie ce qu'il a fait, pensé et senti la veille, pour n'en avoir pas tenu registre, ou alors un ingrat qui fait fi des jours qu'il a vécu et les abandonne à l'oubli, n'estimant pas que ce soit un trésor à conserver. Si tu m'en crois, adorons les habitudes. Ce n'est pas autre chose que la conscience de notre être déployé derrière nous, dans le sens de l'espace et de la durée. Faisons comme le petit pousset, qui sema des cailloux depuis la porte de sa maison jusqu'à la forêt. Marquons nos traces par des habitudes. Servons-nous-en pour allonger notre existence de toute la portée de nos souvenirs, qu'il faudrait tâcher de rendre excellents. Transportons cette existence de droite et de gauche, si la destinée le commande, mais qu'elle ne soit au fond qu'une longue identité de nous-mêmes. C'est le moyen de nous retrouver partout et de ne pas perdre en chemin le plus utile et le plus précieux du bagage, je veux parler du sentiment de ce que nous sommes. Quel doux pays que celui qui permet avec régularité des loisirs pareils. Pas un nuage et pas un souffle, c'est-à-dire que la paix est dans le ciel. Le corps se baigne dans une atmosphère que rien n'agite et dont la température devient insensible à force d'être égale. De 6 heures du matin à 6 heures du soir, le soleil traverse imperturbablement une étendue sans tache dont la vraie couleur est l'azur. Il descend dans un ciel clair et disparaît, ne laissant après lui pour indiquer la porte du couchant qu'un point vermeil pareil à une feuille de rose. Puis une faible humidité se forme au pied des coteaux et répand une brume légère sur les plans éloignés de l'horizon, comme afin de ménager un passage harmonieux entre la lumière et l'ombre et d'accoutumer les yeux à la nuit par la douceur des couleurs grises. Alors les étoiles s'allument au-dessus de la campagne blêmissante et de ce grand pays devenu vague. D'abord on les compte, bientôt le ciel en est illuminé. La nuit s'éclaire à mesure que toute trace du soleil disparaît, et le jour, tout à fait clos, est remplacé seulement par des demi-ténèbres. Cependant la mer dort, comme jamais je ne l'avais vue dormir, d'un sommeil que depuis un mois rien n'a troublé, toujours limpide et plate, assoupie, à peine rayée par le rare passage des navires, avec la transparence, l'éclat et l'immobilité d'un miroir. Pourtant, ce n'est plus l'été, c'est encore moins l'hiver. On voit peu d'insectes, on n'entend pas les bourdonnements du printemps. Les mauves sauvages sont courtes et le gazon reverdit sans s'élever. D'ailleurs, ce grand calme n'appartient qu'aux saisons qui se reposent. Dans nos campagnes de France, à l'automne, quand vient le moment des calmes plats, nos paysans disent que le temps s'écoute. Métaphore ingénue qui rend l'idée de je ne sais quelle méditation vague et fait comprendre ce qu'il y a de recueilli dans un pareil silence. Nous ne sommes plus dans la jeunesse de l'année, on le sent. Quelque chose a souffert qui se rétablit. et ce repos succède à des accès violents. On dirait une convalescence sereine après l'accablement maladif d'un long été. Il est 9 h du matin. Je suis dans un endroit charmant, à mi-pente des collines et en vue de la mer, cadre grandiose dont ce paysage maritime ne peut se passer sans perdre beaucoup de son effet, de son caractère et de son étendue. Le lieu est désert, quoique entouré de maisons de plaisance et de vergers. La solitude y règne comme dans toutes les campagnes de ce pays. Pour seul bruit, j'entends des norias dont le moulin tourne et fait ruisseler l'eau dans les auges, et le roulement presque continu des coricolos courant sur la route de Mustapha. Devant moi, j'ai 2 maisons turques se groupant à des plans différents pour composer un joli tableau, sans aucun style, mais d'une agréable tournure orientale. J'y vois l'accompagnement obligé de toute construction turque. Chacune est flanquée de cyprès. Les maisons sont d'un blanc à éblouir et coupées d'ombres fines, rayées comme au burin. Les cyprès ne sont ni verts ni roux. On ne se tromperait guère en les voyant absolument noirs. Cette tache extraordinaire de vigueur s'enlève à l'emporte-pièce sur un ciel vif et découpe avec une précision dure à l'œil la fine nervure de leurs rameaux, leur feuillage compact et leur branchage singulier en forme de candélabre. Des pentes boisées descendent en boutonnant vers le bas de la vallée, et l'extrémité des coteaux enferme dans des lignes souples et un peu resserrées cet élégant morceau de paysage intime. Tout ceci est peu connu, du moins je ne me rappelle rien dans la peinture moderne, qui en reproduise l'aspect clair et séduisant, et qui surtout rentre avec naïveté dans la simplicité de ces 3 couleurs dominantes dont je t'ai déjà parlé, le blanc, le vert et le bleu. Tout le paysage du Sahel se réduit presque à ces 3 notes. Ajoute-y la couleur violente et brune des terrains oxydés de fer, fait monter comme un arbre chimérique au milieu des massifs verts la haute tige d'un peuplier blanc tout pailleté comme un travail d'orfèvrerie, rétablit par la ligne horizontale et bleue de la mer l'équilibre de ce tableau un peu chaoté, et tu auras une fois pour toutes la formule du paysage algérien, de ce qu'on appelle le FAS avant que nous l'eussions nommé la banlieue. Je suis à l'ombre d'un caroubier magnifique, renommé dans le voisinage et âgé, dit-on, de 3 siècles. Son ombre circulaire mesure à peu près 40 pieds de diamètre. L'arbre a fini de grandir, mais il s'étend, se ramifie, se noue, et par un effort continu de la sève, il se compose d'une couronne inextricable de branchages si serrés, si bien liés et tressés de cyprès, qu'un jour il portera plus de rameaux que de feuilles. Aucun oiseau n'habite ce dôme austère de couleur sombre, hérissé de bois arides, que sa solidité rend immobile et comprendrait pour un arbre de bronze. Rien qu'à le voir, on le sent indestructible. De temps en temps, une feuille, verte encore, mais dont le point d'attache est flétri, tombe au pied de l'arbre. Une autre la remplace et le feuillage dure. Tu sais que le caroubier vit aussi longtemps au moins que l'olivier. J'en ai vu de plus vastes, mais j'en ai jamais vu de mieux construits, ni dont la longévité soit plus probable. Je te l'ai déjà dit, rien ne mesure ici la durée. Pas de soleil qui pâlit, ni de campagne qui s'attriste, ni de feuilles qui tombent, ni d'arbres couverts de moisissures funèbres et qui tristement font semblant de mourir. Il est permis d'oublier que la vie décroît dans cette Hespéride enchantée que jamais ne parle de déchu, de déclin. Seulement, mon ami, si cette permanence de tout ce que je vois nous faisait croire à la perpétuité possible des choses et des êtres qui nous sont chers. À 2 pas de moi est un cimetière. Il est consacré par la dépouille d'un marabout célèbre, Sid Abdelkader, qui repose depuis 2 siècles dans un petit monument qui porte son nom. Le pavé de la cour recouvre en outre plusieurs sépultures dont la place est marquée par des dalles de marbre fort usées grâce au piétinement des dévots. L'intérieur du marabout, fermé de portes étroites et hautes, peintes en vert, ne s'aperçoit pas du dehors. Les pèlerins s'y glissent si furtivement que les portes retombent sur leurs talons. J'ai cru y voir de petites lampes allumées, mais rien de plus. Ces marabouts sont des monuments en miniature. Tout est petit, la cour, les constructions, les coupoles, qui ressemblent à des calottes blanches. Un vieux maure avec sa famille garde ce lieu, doublement consacré par la mort et par la piété de ses hôtes. Il y a des enfants et des femmes, épouses ou servantes, qui vont et viennent dans l'enclos, foulant avec indifférence les inscriptions mortuaires. Des pelures d'orange mêlées aux balayures des repas sont semées çà et là sur les tombes, et des pigeons roucoulent au soleil sur l'étroit escalier des chapelles. Si je n'avais pas un respect infini pour ces lieux-là, je pourrais d'une enjambée m'introduire aisément sur la terrasse. Le plus souvent, elle n'a pour gardien que 2 chats engraissés dans la fainéantise, qui dorment pelotonnés à l'ombre des coubas. De temps en temps, le gardien lui-même vient examiner l'état des murailles. Avec un petit balai, un pinceau et un pot rempli de chaux liquides, il en fait disparaître les moindres salissures, peignant plutôt qu'il ne badigeonne, et se complaisante à faire revivre sous sa main cette blancheur immaculée qui, pour les maures, est le seul luxe extérieur de leur logis. Il y met un soin extrême, comme s'il s'agissait du travail le plus délicat. C'est un gros homme, un peu ventru, toujours propre, au visage plein d'aménité, et dont la verte vieillesse est due sans doute aux loisirs heureux de sa charge. Quand il m'aperçoit, ce qui n'arrive que rarement, tant il est occupé par ses soins de propreté, nous nous saluons poliment d'une formule courte, et jusqu'à présent je ne connais pas autrement ce vieil homme, moitié fossoyeur et moitié sacristain, que pour lui avoir dit « Bonjour Sidi, que le salut de Dieu soit sur toi, que ta maison soit prospère et que la mort de tes semblables t'exhorte à bien vivre. » Ce monument bizarre, moitié maison de campagne et moitié tombeau, cette existence de famille au milieu des sépultures, ces enfants qui naissent et grandissent sur cette couche de cendres humaines, ce voisinage inusité de la vie et de la mort, enfin ces jolis oiseaux voués aux plus gracieux emblèmes dont le doux chant ressemble à l'entretien posthume de tant de cœurs inanimés, de tant de sentiments pour toujours éteints. Ah, tout cela, mon ami, sans aucune espèce de poésie, crois-moi, m'intéresse beaucoup et m'entraîne à des rêveries que tu peux comprendre. À côté du mausolée et communiquant par une porte avec l'enclos réservé, s'étend le cimetière public. Il porte le nom du marabout. On l'appelle aussi le cimetière de Babazoun, pour le distinguer du cimetière de l'Ouest situé près de Bab el-Oued. Il est petit, même pour la moitié d'une aussi grande ville. Aussi l'étroit terrain est-il constamment remué, fouillé dans sa profondeur, et partout où des tombes de pierre ne font pas respecter la propriété du mort, je présume qu'on s'occupe assez peu de l'être inconnu qui fut déposé là, et que n'importe comment on fait faire place au nouvel arrivant. La terre, pétrie de matière humaine, fait pousser des plantes énormes. Les mauves, les cactus, des aloès monstrueux y prospèrent en toute liberté. Un âne se promène en paix dans ce pâturage riche en engrais. Les tombes arabes sont très simples, même les plus opulentes, et se ressemblent toutes, ce qui, philosophiquement, est d'un grand goût. C'est un bloc en maçonnerie, d'un carré long, peu élevé au-dessus du sol, portant à ses deux extrémités soit un turban grossièrement sculpté sur un petit fût de colonne, et rappelant assez exactement la forme d'un champignon de couche sur sa tige, soit un morceau d'adoise triangulaire posé debout comme le style d'un méridien. La dalle de pierre ou de marbre est couverte de quelques inscriptions arabes, noms du mort et préceptes du Coran. Quelquefois, cette dalle est taillée en forme d'auge et remplie de terre végétale. On y voit alors un peu de gazon et quelques fleurs, soit qu'on les y ait plantées, soit que le vent lui-même en ait apporté les semences. Quelquefois encore, on prend soin de creuser aux deux extrémités de la pierre deux petits trous en forme de coupe ou de godet où la pluie se dépose et fait un réservoir d'eau. D'après une coutume des Maures, on a creusé au milieu de cette pierre un léger enfoncement avec le ciseau. L'eau de la pluie se rassemble au fond de cette coupe funèbre et sert, dans un climat brûlant, à désaltérer l'oiseau du ciel. Je n'ai pas vu d'oiseau voler vers ces tombes arides ni boire aux coupes taries, mais je pense au dernier abincérage, chaque fois à peu près que j'entre dans le cimetière de Sir Abdelkader. Cependant, on se tromperait beaucoup si l'on croyait que tout y est édifiant. Il y a dans le génie du peuple arabe un mélange de fictions charmantes et de réalités absurdes, de réserves et d'inconvenances, de délicatesse et de brutalité, qui le rendent très difficile à définir d'une façon absolue. Une définition ne suffit pas, il faut des nuances. On l'admire et aussitôt on croit s'être trompé, tant les démentis sont fréquents dans le caractère de la race, et tant il y a de désaccord entre son génie naturel, qui est subtil, et son éducation, qui toujours est des plus grossières. L'arabe a dans l'esprit quelque chose d'ailé, et nul parmi les peuples civilisés n'est plus profondément engagé dans la matière. On peut donc, sans se contredire, pensez de lui les choses les plus contraires, suivant qu'on l'étudie dans son esprit ou qu'on l'observe dans ses habitudes. Il y a un jour par semaine, ce doit être le vendredi, où, sous prétexte de rendre hommage aux morts, les femmes d'Alger se font conduire en foule au cimetière, à peu près comme à Constantinople, on se réunit aux eaux douces. C'est tout simplement un rendez-vous de plaisir, une partie de campagne autorisée par les maris pour celles qui sont mariées, et j'ai des raisons de croire que c'est le plus petit nombre. D'ailleurs, ce rendez-vous se renouvelle à peu près tous les jours. Et il est rare que, dans l'après-midi, le chant de Sid Abdelkader ne soit pas égayé, autant qu'il peut l'être, par les conversations et les rires. On fait plus que d'y converser. On y mange, on s'installe sur les tombes, on y étend des haïcks en guise de nappe. La pierre tumulaire sert à la fois de siège et de table à manger, et l'on s'y régale par petits groupes de pâtisseries et d'œufs au sucre et au safran. Les grands voiles, qui sont de trop quand nul indiscret ne se monte dans le voisinage, flottent suspendus au cactus. On laisse voir les toilettes de dessous fort brillantes, quelques-unes splendides, car c'est une occasion de vider ses coffres, de faire face de ses parures, de se couvrir de bijoux, de s'en mettre au cou, au bras, aux doigts, aux pieds, au corsage, à la ceinture, à la tête, de se peindre avec des couleurs plus vives les sourcils et le bord des yeux et de s'inonder des odeurs les plus violentes. Qui pourrait dire, mon ami, ce qui se passe alors, pendant ces quelques heures d'indépendance, entre toutes ces femmes échappées aux sévérités du logis fermé, qui sait ce qu'elles racontent de médisance, d'histoire de quartier, de commérage, d'indiscrétion domestique, d'intrigue et de petits complots. Plus libres ici qu'elles ne le sont au bain, elles n'ont pour confident et pour témoin que des gens fort discrets, ceux qui dorment sous leurs pieds. J'assiste assez souvent à ce spectacle d'un peu loin, caché dans un observatoire ombreux que j'ai choisi exprès. Je vois tout, mais n'entends rien qu'un chuchotement général, mêlé de notes gutturales en suraiguë, une sorte de ramage comparable à celui d'une grande troupe d'oiseaux bavards. L'errance éclaircit à mesure que le soir approche. Des omnibus qui stationnent à peu de distance du cimetière, comme nos fiacres à la porte des lieux de plaisir, emportent par charreté ces dévotes mondaines vers Alger. Et les morts n'ont de repos que lorsque la nuit est de nouveau descendue sur eux. Un peu plus loin que le cimetière, en suivant la route, on trouve un endroit très vanté, très souvent reproduit, dont tu dois connaître déjà 10 tableaux au moins, ce qui me dispensera, j'espère, de faire aussi le mien. Je veux parler du Café des Platanes. Le lieu, assurément, est fort joli. Le café, construit en dôme avec ses galeries basses, ses arceaux d'un bon style et ses piliers écrasés, s'abrite au pied d'immenses platanes d'un port venu d'une hauteur et d'une ampleur magnifique. Au-delà, et tenant au café, se prolonge par une courbe fort originale, une fontaine arabe, c'est-à-dire un long mur dentelé vers le haut, rayé de briques, avec une auge et des robinets primitifs dont on entend constamment le murmure, le tout très écaillé par le temps, un peu délabré et brûlé de soleil, verdi par l'humidité, en somme un agréable échantillon de couleurs qui fait penser à deux camps. Une longue série de degrés bas et larges, dallés de briques posées de champs et serties de pierres émoussées, mène par une pente douce de la route à l'abreuvoir. On y voit des troupeaux d'ânes trottinant d'un pied sonore, ou des convois de chameaux qui s'y montent avec lenteur et viennent plonger vers l'eau leur long cou hérissé, avec un geste qui peut, suivant qu'on le saisit bien ou mal, devenir ou très difforme ou très beau. En face s'ouvre par une grille française flanquée de pilastres précédés de tristes acacias, la grande allée pleine de roses encore fleuries du jardin d'essai. J'y vais quelquefois, mais je n'en parlerai pas n'étant pas botaniste et n'étudiant au surplus que les choses arabes. Même date, le soir. J'ai achevé ma journée parmi les arbres, à regarder des maisons turques. Il y a toute une partie des collines où ces constructions élégantes sont en très grand nombre. On les voit poindre çà et là, par-dessus le feuillage, à très petite distance les unes des autres, et si bien entourées que chacune d'elles a l'air d'avoir son parc. Toutes sont bâties dans une situation pittoresque, sur un échelon de pentes boisées, et toutes regardent la mer. En se levant soi-même sur ce vaste amphithéâtre, disposés régulièrement en terrasse, on peut imaginer la belle et grande vue dont jouissent les habitants de ces jolies demeures. Aujourd'hui, sans exception, elles appartiennent à des Européens. Aussi le grand mystère qu'elles recélaient s'est évanoui, et beaucoup de leur charme a disparu. L'architecture de ces maisons n'a plus grand sens appliqué aux habitudes européennes. Il faut donc les prendre pour l'agrément de leur aspect extérieur et les étudier comme autant de monuments gracieux d'une civilisation exilée. Habitées par le peuple qui les avait bâties, et je pourrais dire rêvées, ces demeures étaient une des créations à la fois les plus poétiques et les plus spirituelles. Ce peuple avait su faire des prisons qui fussent des lieux de délices et cloîtrer ses femmes dans des couvents impénétrables au regard et transparents. Pour le jour, une multitude de petites ouvertures, des jardins tendus de jasmin et de vignes, et pour la nuit, des terrasses, quoi de plus malicieux et en même temps de plus prévoyant pour la distraction des prisonnières. Ces maisons, si bien fermées, n'ont pour ainsi dire pas de clôture. La campagne y pénètre en quelque sorte et les envahit. Le sommet des arbres touche aux fenêtres. On peut, en étendant le bras, cueillir des feuilles et des fleurs. L'odeur des orangers les enveloppe, et l'intérieur en est tout parfumé. Les jardins ressemblent à des joujoux d'art destinés à l'amusement de la femme arabe. Cet être singulier dont la vie longue ou courte n'est jamais autre chose qu'une enfance. On n'y voit que petites allées sablées, petits compartiments de marbre creusés de rigoles, où l'eau serpente et dessine en courant des arabesques mobiles. Quant au bain, c'est encore un séjour imaginé par un mari poète et jaloux. Figure-toi, de vastes citernes où l'eau n'a pas plus d'un mètre de niveau, d'allée du plus beau marbre blanc et ouverte par des arceaux sur un horizon vide. Pas un arbre n'atteint cette hauteur. Et quand on est assis dans ces baignoires aériennes, on ne voit que le ciel et la mer et l'on n'est vu que par les oiseaux qui passent. Nous ne comprenons rien, nous autres, aux misères d'une pareille existence. Nous jouissons de la campagne en nous y promenant. Rentrons-nous dans nos maisons, c'est pour nous enfermer. Mais cette vie recluse près d'une fenêtre ouverte, l'immobilité devant un si grand espace, ce luxe intérieur, cette mollesse du climat, le long écoulement des heures, l'oisiveté des habitudes, devant soi, autour de soi, partout, un ciel unique, un pays radieux, la perspective infinie de la mer, tout cela devait développer des rêveries étranges, déranger les forces vitales, en charger le cours, mêler je ne sais quoi d'ineffable au sentiment douloureux d'être captif. Ainsi laissait au fond de ces délicieuses prisons tout un ordre de voluptés d'esprit qui sont à peine imaginables. Au surplus, mon ami, ne me trompais-je pas en prêtant des sensations très littéraires à des êtres qui assurément ne les ont jamais eus.